Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme de cette dernière émission de la saison 10 de Silence on joue. Bientôt 10 ans, hein, on aura 10 ans à la rentrée. mais oui. Au programme de la... On ne pouvait pas, c'était impossible de finir cette saison sans parler du phénomène absolu de, ces derniers mois. Il est disponible sur Steam depuis le 23 mars. Il était en bêta avant, en bêta fermée avant.
Là, il est en early access.
Je veux bien évidemment parler de PlayerUnknown's Battleground. Alors, pour ceux qui suivent Silence on joue depuis un petit bout de temps, ils peuvent être étonnés parce que je ne suis pas réputé pour avoir une attirance pour les jeux où on se pète la gueule à coups de AK-40, AKM et de fusil d'assaut et tout ça. C'est pas forcément mon genre de prédilection, mais là, c'est quelque chose qui relève du fascinant. Hein, oui. Voilà. Et on parlera aussi de Lawbreakers, qui est lui aussi en bêta fermée pour l'instant, et puis qui va arriver courant août. Et puis voilà, et pour en parler, j'accueille un de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin, des croissants maintenant,
hein,
on peut le dire.
On peut le dire, mon
c'est
Dieu.
Quoi les croissants, rapidement?
Les croissants, c'est une matinale radio, mais qui est adaptée au choix de son auditeur. Donc vous téléchargez l'application, vous faites les petits choix, moi je veux de la politique, de l'économie, du jeu vidéo, pourquoi pas. Et le matin, à l'heure que vous voulez, vous aurez votre émission la plus adaptée, du mieux qu'on peut refaire.
Et vous allez rentrer en bêta-test cet été.
Cet été, après, en août, on croise les doigts pour que ce soit le cas, mais... on vous tiendra plus au courant sur le site.
Bien sûr. Et j'ai le plaisir d'accueillir Timothée. Oui. Timothée Breuititi. Tibi.
Tibi. Tibi.
Non.
En gros, il y a 4 lettres. Il a réussi à vraiment... Breuititi. 4 lettres.
Ça va, j'ai noté. Timothée, tu es streamer indépendant.
Tout à fait.
Donc sur Twitch.
Exactement.
Tu as une chaîne YouTube aussi, évidemment. Tu es comparse de Corentin sur Passe le Stick, qui aura sa dernière émission de tout le temps,
de toute la vie, malheureusement.
Samedi prochain.
Samedi 8 juillet, inscrivez-vous, il reste des places.
Et donc, évidemment, en tant que streamer indépendant sur Twitch, tu passes beaucoup trop de temps sur PUBG et PlayerUnknown's Battleground. Et donc, on va parler de tout cet univers, de tout ce que ça propose. Et il y a il y a peut-être trop de choses à en dire pour une seule émission, mais on va essayer de rentrer ça dans le format. Et puis le reste du programme que vous connaissez, le Comme des Coms, Monsieur Fall, évidemment, pour sa dernière chronique de la saison. Et puis, on va commencer tout simplement par toi, Corentin,
oui.
Avec une annonce de Nintendo.
Bon, elle était attendue, hein, cette annonce, c'est la Super NES Mini, comme on va l'appeler. Alors le vrai nom, tenez-vous bien, c'est la Nintendo Classic Mini, 2. Super Nintendo Entertainment System, donc voilà, c'est tout simplement la suite, hein, de ce qu'on avait vu avec la NES Mini, sauf que là, c'est la Super NES Mini. C'est tout simplement une console plug and play qui fonctionne avec un émulateur qui permet de faire fonctionner un certain nombre de jeux. J'ai oublié de noter le nombre, j'ai surtout noté les titres qu'il y a dedans. Ouais, il y en a un peu moins que sur NES Mini, je crois. Et évidemment, la Super NES, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, c'est ma console de cœur. Pour moi, c'est une des meilleures consoles de l'histoire en termes de ludothèque, même en termes techniques. Elle était quand même assez puissante. Elle avait des techniques pour, voilà, il y avait le fameux mode 7 qui était assez caractéristique de la console. Donc évidemment,
Super FX aussi.
Super FX, c'était plus qu'on rajoutait dedans. Mais techniquement, n'importe quelle console,
tu peux rajouter. C'est la technologie de la Super NES.
C'est vrai. Et du coup, on aura droit à des jeux de ouf. Enfin, voilà, Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario World, Yoshi Island, Super Metroid, les gars, on va rejouer à Super Metroid. Bon, en vrai, on peut déjà, si on veut.
Super Mario. Il y aura un F-Zero qui sortira cette année, c'est cool.
Voilà, il y aura un F-Zero qui
sortira. Est-ce qu'on a des informations sur le câble, de la longueur du câble de la
50.
Ils ont trouvé que c'était peut-être encore un peu long pour la boîte, donc ils vont encore faire en sorte
Il n'y avait pas un truc comme quoi ça allait être 1m50,
je crois
que ça allait être beaucoup plus long. long quand même que la version de la NES.
C'est possible. Bah, de toute façon, ils vont, la console va être plus chère, mais va intégrer deux manettes. Mmh. Donc, pour jouer à Mario Kart, ça peut être plus sympa déjà. Et surtout, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, mis Star Fox 1, mais ils ont mis Star Fox 2 aussi. Et Star Fox 2, il faut savoir que c'est un jeu qui n'est jamais sorti, qui était pourtant terminé ou quasiment terminé, mais que Nintendo avait refusé de sortir à l'époque de peur de souffrir de la comparaison des nouvelles consoles qui sortaient à ce moment-là, qui
était la PlayStation. Pour la version 64, surtout.
Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on va pouvoir jouer de manière officielle, puisque évidemment, il y a des ROM qui tournent sur Internet depuis longtemps.
Des ROM buggés, surtout.
c'est sûr.
J'essayais d'y jouer à l'époque, il n'y avait aucun émulateur qui le faisait tourner correctement.
Ouais, ça buggait pas mal, mais il y avait plein d'idées qu'on a vues, notamment dans Star Fox Zero, alors qui sont un peu. Voilà, on peut en discuter, est-ce que ce sont des bonnes ou des mauvaises idées, mais il y a beaucoup de choses qui ont inspiré Star Fox Zero qui étaient dans ce Star Fox 2, et donc on va pouvoir voir ce que c'était, tout simplement, on va dire, dans son jus de l'époque. Voilà, donc la Super NES Mini, ça sort pas tout de suite.
J'ai plus la date.
C'est en fin d'année.
Avant la fin de l'année.
Ah, voilà.
Hein, tu dis qu'on est en 2017 quand voilà.
Tu sais pas,
ça
on est pas mal. Timothée, toi, tu t'intéresses aussi aux jeux de baston, aux jeux de combat, et il y a un titre qui a fait beaucoup parler de lui, sauf dans Silence on joue, où on a complètement fait l'impasse, mais c'est pas grave. Mais on va en reparler du coup. C'est Dragon Ball Z Fighters qui commence à avoir. Fighters.
On dit
Fighters.
Ouais.
Fighters. Ah, d'accord.
Fighters.
Je comprends le double utilité du Z. C'est malin. C'est
oui, voilà. C'est malin.
Fort,
Et alors, au-delà donc déjà de l'esthétique qui a un peu scotché tout le monde et notamment les fans de Dragon Ball Z, il commence à y avoir pas mal de choses qui arrivent, laissant penser qu'il pourrait s'imposer même dans le genre assez occupé, on va dire, des jeux de baston.
C'est ça. En fait, le jeu, non seulement, donc ouais, tu l'avais dit, il avait vraiment plu d'un point de vue graphique. Enfin, franchement, il met une claque. Et en fait, il arrive dans cette période creuse où, effectivement, Capcom avait eu le leader avec Street 4. Il y avait KOF 13, etc. Mais il n'y avait aucun jeu qui avait vraiment suscité vraiment un engouement de fou.
Même sur le tag, ils avaient Marvel.
Et même Marvel, en plus, avec les problèmes de licence, etc., ils ne pouvaient plus mettre le jeu à jour. Enfin bref, c'était une catastrophe. Il y a eu donc la Street Fighter 5 qui est sortie l'année dernière. Le soufflet a retombé. Il y a beaucoup moins de monde qui joue, etc. Et on sent qu'il y a des joueurs qui ont envie de trouver un autre jeu ou quelque chose d'autre. Alors, effectivement, il y a eu les Guilty de Arc System, parce que c'est eux qui développent le jeu.
Mais là, Injustice 2, non.
Il y a Injustice 2, c'est très américain. En France, il y a une petite scène quand même. Il y a pas mal de joueurs qui jouent, notamment à Paris. Mais c'est pas le jeu qu'on attend, que tout le monde est unanime. Ouais. Là, Dragon Ball Z, c'est un manga sans doute l'un des plus prestigieux qu'on a tous connu, je pense, autour de cette table. Plus Arc System qui est derrière, donc qui ont fait les Guilty Revelator, Xrd, etc. avec leur nouveau moteur où c'est le cel shading, c'est plus beau que l'animé. Ouais, c'est-à-dire que là, je pense qu'ils vont utiliser le moteur pour faire la série parce que là, c'est plus possible. Et en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui espèrent en tout cas arriver l'arrivée de ce jeu avec impatience, notamment pour voir ce qu'on peut donner d'un point de vue compétitif. Après, le truc, c'est de voir au niveau de la balance comment ça va se passer parce que c'est un jeu en tag. Donc, c'est compliqué.
Finalement, le jeu pourrait plus faire de l'ombre à Marvel.
À Marvel qui va arriver au Infinite.
Oui, qui a été une grosse annonce aussi.
Qui a une grosse annonce, mais qui a déçu tout le monde pour les mêmes raisons presque que DBZ, c'est-à-dire mon Dieu que c'est laid.
Mais il est surtout passé après Marvel Infinite, parce que c'est Xbox qui avait présenté Fighters. Et Sony qui avait présenté Marvel.
Oui, mais Marvel était déjà présenté.
Oui, on l'avait déjà vu, mais là, ils en avaient montré un peu plus, puis ils avaient sorti le story mode, et oh mon Dieu, le jeu est pas beau, c'est un peu rigide, etc. Donc, on a l'impression que ce Fighter Z peut avoir
Et là aussi, avant la fin de l'année,
de Fighter leader.
Z. Ouais. Fighter Z, donc ça va être un peu le grand chamboulement, et c'est vrai que je pense que tout le monde...
Ça fait envie, quoi. Ouais. Il est beau.
Quand même, ils vont devoir bricoler quelque chose.
Moi, j'attends, bizarrement, mais c'est mon côté newbie, j'attends le story mode. Ils peuvent déboîter quand même pas mal là-dessus.
Sachant que là, ils ont annoncé. Story mode pour Monsieur Satan, c'est tout ce que je veux.
Ils ont annoncé Trunks, Mirai Trunks, là récemment, donc ça fait le 7e perso, je crois. Ouais. Parce qu'il y avait Boubou, Cell, Freezer, Goku, Vegeta et Gohan Nado.
Et donc là, Mirai Trunks, donc on espère qu'ils vont peut-être aller un peu plus loin dans l'univers de Z, qui est peut-être un peu Dragon Ball Super, qui est quand même en cours de diffusion, donc pourquoi pas avoir...
Il y a un vrai respect des références, enfin, même quand tu te bats et tout, il y a plein de petits angles de caméra qui rappellent des cases du manga culte, il y a des petits détails partout, c'est
Souviens-toi, Persona 4 Arena, les fans de Persona, ils ont vu toutes les références cachées que Arc System avait mis dans le développement, un peu partout dans le jeu de combat, donc je pense que Arc System, c'est vraiment le studio qu'il fallait pour s'occuper de Dragon Ball Z, et ils vont vraiment mettre le paquet parce qu'ils ont envie que le jeu ne déçoive pas les fans, quoi.
Eh ben, on va l'attendre pour la saison prochaine, la 11e de Science Fiction. le comme de la semaine dernière. Alors voilà, en même temps, je le savais en parlant de Wipeout Omega Collection. J'ai parlé d'un gameplay rugueux de la série Wipeout, tout simplement. Vis-à-vis de ma propre impossibilité, on va dire, de faire des temps corrects avec ce jeu. rugueux, hein. Et puis, donc, Monsieur Fall, qui était là, a voulu résumer ma pensée en disant, oui, c'est beau, mais injouable. Et évidemment, ce n'est pas un avis partagé par tout le monde, même pas du tout. Ça a été un peu une volée de bois vert sur les forums, notamment Red, malgré tout le respect que j'ai pour Monsieur Fall et sa barbe, je m'insurge contre cette diffamation qui qualifie Wipeout d'injouable, que ce soit à notre époque ou à sa sortie. Un gameplay injouable n'aurait pas abouti à une série de 10 itérations sur 10 plateformes différentes entre 1995 et 2017. On ne se prend pas les murs, on les frôle, les aérofreins servent à ça.
C'est un jeu de bobsleigh, en fait.
N'accusez pas l'exigence du gameplay lorsque votre skill est mise à défaut. Oui, bon.
Cela dit, je suis sûr que je peux trouver une série de jeux qui a duré longtemps sur plein de consoles et qui a un gameplay injouable.
Je garde ça, mais on a ta to-do list. Trackmania, c'est très sympa, mais ce n'est pas un juste milieu, parce qu'un autre lecteur avait évoqué ça. C'est très facile. Si on regarde l'histoire du genre des courses futuristes, Wipeout est loin d'être le plus ardu. Il faut surtout rappeler que le studio original Sony Liverpool a été fermé à regret et que ce Omega, aussi réussi soit-il, reste bien opportuniste et en même temps, il n'apporte pas grand chose de neuf aux fans de la série. Et évidemment, toujours pas de VR. Quelle riche idée d'avoir acheté un casque. Gurchan qui nous dit parfaitement, honte à vous qui osez critiquer le gameplay de course futuriste le plus génial de ces 20 dernières années.
Oh là 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 là, oui, oh la bold statement. Il y a eu F-Zero GX quand même à un moment donné dans l'histoire.
Laissez parler nos auditeurs, s'il vous plaît. vous entendre, il faudrait retirer les aérofreins. Sacrilège, c'est ce qui fait tout le sel de Wipeout. Jouer sur la limite, frôler les murs dans une gerbe d'étincelles, ah le bonheur. D'ailleurs, pour la sortie d'Omega, plutôt que d'acheter pour la 4e fois des jeux que j'ai dans toutes leurs versions, j'ai ressorti ma PS1 et mis le meilleur opus de la série.
Ah bah je sais pas, j'y connais rien.
Voilà, Wipeout 3, avec un 3 à la place du jeu.
Je le savais.
Le pinacle du gameplay de Wipeout dans une épure graphique et musicale, la perfection. Le seul point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est que les armes ne devraient pas être de la partie. Le meilleur mode de Wipeout, c'est le time attack. Et je finis avec Shtimixer qui nous dit, j'avoue avoir été étonné qu'Erwan trouve la série Wipeout injouable. Non, moi j'ai dit rugueuse. Enfin, j'ai peut-être dit injouable aussi. C'est juste une question de patience et d'apprentissage. Je me souviens que vous aviez formulé le même type de reproche au trait technique Top Spin 3 en son temps. Moi, je m'en souviens absolument pas, mais mes auditeurs ont de la mémoire. Pour prendre un exemple qui va davantage parler à Erwan, je ne suis pas fan des jeux de basket, je n'ai joué qu'à NBA Jam dans les années 90, et je suis sûr que je trouverais NBA 2K absolument injouable si je m'y mettais aujourd'hui. Wipeout, c'est la même chose. Pour découvrir toutes les subtilités du gameplay, il faut lui consacrer du temps, et après quelques dizaines d'heures, sa jouabilité paraîtra évidente, même aux plus réfractaires.
Donc tu rayes rugueux, voilà. Mais exigeant.
On va remonter l'émission précédente pour enlever ce passage. Non, je déconne. Allez, c'est parti, parce qu'on a beaucoup de choses à en dire. Donc, je l'ai dit, il est arrivé le 23 mars sur Steam et le 22 juin, c'est-à-dire il y a quelques jours, il a été annoncé que 4 millions d'exemplaires avaient été vendus. C'est quand même un truc de taré. Autre chiffre de taré, c'est quand même Battlegrounds, PlayerUnknown's Battlegrounds a dépassé, il est arrivé que PlayerUnknown's Battlegrounds dépasse League of Legends sur Twitch. Et ça, on parle d'une performance quand même quasi historique. Et donc, on va en parler de ce jeu qui est de Bluehole, ce jeu sud-coréen. De Bluehole, on regarde la bande-annonce.
Ah.
écoute, quand on regarde, la subtilité de PlayerUnknown's Battleground ne saute pas forcément aux yeux et aux oreilles. Mais, et s'il ne faut pas se tromper, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer. C'est que le jeu de Battle Royale ultime, quelque part, est sorti. Et ce n'est pas pour rien qu'il est sorti, c'est que derrière PlayerUnknown's Battleground, il y a PlayerUnknown. PlayerUnknown alias Brendan Green, un Irlandais qui a aujourd'hui 41 ans, qui a passé sa vie à être DJ, photographe et designer. Pas du tout game designer, pas du tout.
Jeux vidéo à la base.
Brendan Green, il y a quelques temps, il était exilé au Brésil hein, suite à une histoire amoureuse. Non, attends.
J'adore l'histoire.
Non, mais oui, c'est l'histoire. Et donc, il a divorcé. Il est au Brésil. Il sait pas trop quoi faire. Il joue à Arma 2 et à DayZ notamment. Hein, donc, ce mode d'Arma 2 qui jette les joueurs dans une map immense avec des zombies et avec une sorte de liberté totale de savoir est-ce qu'on collabore, est-ce qu'on tue les autres, sachant que la deuxième solution est souvent celle choisie parce que un peu trop, bah oui, le côté roleplay était un peu limité. Et puis lui, il a un gros fantasme, c'est d'intégrer un mode de jeu Battle Royale. Battle Royale, c'est le nom de ce film de 99, je crois, ce film japonais, et qui donc racontait l'histoire de ces adolescents qui étaient balancés sur une île et un seul devait survivre, et avec des règles de rétrécissement comme ça, avec des zones interdites, avec des colliers et ce genre de choses.
Bah, on peut voir des vrais parallèles au niveau du gameplay. On sent qu'il y avait une vraie envie de cette notion de spatialisation, de comment dire, goulot d'étranglement qui arrive petit à petit.
Qui se rapproche du centre à chaque fois.
Qui force les gens finalement à se croiser parce que l'île est assez grande, mais alors même si on est 100 au début.
C'est 8 km.
Quand on est plus cuit, il faut bien que la zone soit rétrécie pour qu'on puisse se rencontrer.
Et juste pour continuer hein, cette histoire que je trouve assez belle finalement au final, c'est que donc Brendan Green a cette envie d'intégrer Battle. Il n'est pas codeur, il a quelques notions, et en fait il code un mode Battle Royale pour Arma 2, ouais. Donc, et qui cartonne, qui marche très bien, et qui est repéré donc, par les gens de Sony Online Entertainment au moment où eux-mêmes veulent créer leur propre titre, donc H1Z1. Ils veulent créer une version de leur jeu Battle Royale, hein, donc King of the Kill, c'est ça
En fait, il y avait Just Survive. Mm. Au début, il n'y avait que Just Survive. Et après, il y a eu King of the Kill qui est arrivé après. Et en fait, normalement, ces jeux-là devaient arriver.
Et là, ils ont demandé donc à Brendan Green de venir à San Diego, d'être consultant. Parce que finalement, dans la scène du jeu vidéo, c'est lui qui connaissait le mieux le mode Battle Royale, vu que c'est lui qui avait fait un peu la première version du truc. Et alors que lui, quand il raconte, il est toujours assez étonné. Il dit, j'ai aucun brevet sur le mode Battle Royale, sur le Last Man Standing.
Tout le monde peut en faire un, et il se demande pourquoi lui au final.
Voilà, il n'y a pas de brevet sur le Last Man Standing finalement qui est un peu le mode Battle Royale. Mais en fait voilà, ils ont eu raison parce que finalement c'est lui la clé quelque part, parce que qu'est-ce qui se passe après? Sony Online Entertainment est racheté, c'est ça?
Non, Daybreak. Ouais. Ils montent Daybreak. Ah oui. Il me semble qu'ils rachètent, enfin ils remboursent l'avancement des frais que Sony avait versé pour le développement du jeu qui devait arriver justement sur console PlayStation. Et du coup, ils ont monté leur propre studio en récupérant H1Z1, The Survive et King of the Kill.
Et là, en fait, Brendan Green donc, reçoit un mail d'un certain Changan Kim, qui est le boss de Blue Hole, qui est donc un studio sud-coréen dont personne n'a entendu parler parce qu'ils ont simplement...
Ils ont fait Terra.
Voilà, ils ont développé... Ah, moi, pas du tout. Non, ils ont développé Terra, donc un MMO...
J'y ai joué.
Ah oui, bah, bravo.
Et le jeu était super beau.
Comme tous les coréens, ils sont toujours
mais
très
beaux. Mais le gameplay était bien aussi. Ah bon, c'est pas toujours le cas sur les MMO coréens.
Et donc, en fait, dans son mail, il envoie un mail à Brendan Green et j'ai une idée pour un jeu Battle Royale. J'ai toujours voulu en faire un depuis 10 ans et j'ai vu ce que vous avez fait sur Arma et sur H1Z1. J'ai adoré. Est-ce que vous seriez intéressé pour venir ici, à Séoul, et nous parler et bosser avec nous sur votre vision d'un jeu Battle Royale? Et là aussi, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui a appliqué une idée ultra commune d'un jeu Battle Royale qu'il a bien fait. Et il y a des gens qui l'ont repéré à chaque fois. Donc, et on aboutit donc en mars 2017 à la sortie. Ils bossent dessus depuis 18 mois à peu près.
Ils ont quand même rushé. Enfin,
bah oui, ils ont quand même rushé parce qu'ils sont partis de zéro là pour le coup. Enfin, ils sont partis du moteur Unreal, qui est Unreal 4. Mais à part ça, ils sont partis de zéro et ils ont développé un jeu de from scratch. Et ils débarquent le 23 mars.
Mais t'as raison, on peut noter quand même un espèce de nez creux généralisé d'à peu près tout le monde, soit Sony.
Personne ne l'a vu venir.
Non, si. Fou, hein. Moi, je trouve que tout le monde s'est dit il y a un truc. Il y a un truc à faire.
Moi, non, j'ai pas cette impression-là. Ouais. Cette impression que le jeu est arrivé.
Ah oui, le PlayerUnknown's Battle Royale.
L'idée du Battle Royale, tout le monde avait envie d'en faire un. Mais finalement, personne n'a réussi à vraiment concrétiser comme
l'a fait... Ce qui est fou, c'est que les gens ont réussi à repérer cette espèce de spécificité liée à Brendan Green. C'est-à-dire, ils se sont dit, ce mec-là, même s'il prend un concept ultra classique, il sait faire. Il a son idée et il sait en faire un vrai jeu vidéo.
Mais après, le mec, c'est un joueur. C'est surtout ça. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, mais... Bon, puis il aime bien Arma, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir dans Arma. Et il s'est mis donc dans la place du joueur et il s'est dit, mais dans un mode bataille royale, qu'est-ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me donnerait envie de revenir sur ce jeu. Et le résultat est là, quoi.
Et on va parler du jeu précisément, mais pour vous montrer, parce que, encore une fois, peut-être que les auditeurs de Silence on Joue sont un peu surpris qu'on mette autant d'attention comme ça sur un jeu en early access, qui est un jeu de guerre finalement multijoueur. C'est que... Les chiffres sont complètement dingues. Hier, j'ai regardé, on enregistre vendredi, hier, il y avait plus de 255 000 joueurs simultanés en train de jouer sur Steam. Mais le plus étonnant encore, c'est qu'en plus de ces 255 000 joueurs simultanés, il y avait 120 000 viewers sur Twitch.
C'est dingue.
Et parce que non seulement c'est un excellent jeu à jouer, mais c'est aussi un excellent jeu à regarder. C'est peut-être pour moi le jeu le plus télévisuel qui soit le plus agréable à regarder. Parce que moi, j'ai commencé PUBG en étant simple spectateur. Parce que je suis arrivé, en fait, on va dans Twitch, on regarde les jeux les plus joués. Il y a ce machin qui débarque du jour au lendemain.
Tu vois ce mec avec ce casque de spectateur, je fais, mais qu'est-ce ?
Ce casque de soudeur, là, machin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et tu cliques et tu commences à regarder et t'es complètement hypnotisé. Voilà, c'est le jeu phénomène. Timothée, toi, tu y joues
beaucoup trop.
Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche ?
Alors, en gros, c'est simple. Au début, on commence tous sur une île déserte. Donc, avant ça, tu as le choix entre un mode de jeu, donc solo, en duo ou en équipe de 4. Et en gros, on est catapulté dans un spawn où tu vois tous les autres joueurs, donc tu peux t'amuser à faire « Je suis un serpent, follow me, I'm a snake, follow me », tu marches un groupie. Donc il y a plein de situations cocasses dans le...
C'est un moment absolument surréaliste qui dure une minute.
À peu près, c'est le temps que le matchmaking se mette en place.
Il y a quand même 100 joueurs une partie.
Hein. Ouais, c'est ça.
Et les micros sont ouverts.
Alors, tu peux le désactiver.
Mais il y a des gens qui ont le micro ouvert, c'est le seul moment, finalement. Et tout le monde, on peut... pas tuer les autres, c'est-à-dire tout le monde est invincible, mais il y a des armes qui sont disposées, donc
tu peux t'entraîner.
C'est une sorte de... Pendant 30 secondes, une minute, c'est un grand n'importe quoi.
C'est la récré,
oui.
Tu vois, c'est... non, mais c'est le moment de détente avant d'aller se foutre sur la tronche, tu vois, donc c'est ça qui est rigolo. Et puis après, donc au bout de 7 minutes, une fois que les 100 joueurs sont réunis, on est... parachuté sur une île déserte, donc on est en avion, puis on saute au moment...
Littéralement parachuté, hein. On est dans un avion.
C'est-à-dire, on est dans un avion qui survole cette île de 80 km² environ.
Angel quelque chose à la
base.
Angel quelque chose, elle a un nom
entre 60 et 80 km² de territoire.
Non, 8 fois 8. 8, 8, ouais, 8 fois 8.
60,
mais ça 64, fait beaucoup, hein.
64 km². En comparaison, on est sur des maps façon Red Dead Redemption, les open world, c'est
long à traverser.
C'est long, c'est très très long.
Alors, c'est plus petit que la map de Zelda, mais...
Et donc, pour préciser, cet avion, cet gros avion porteur qui porte tous les joueurs, traverse l'île sur un axe différent un axe aléatoire, dans un sens aléatoire, et donc, en fait, va traverser cette île immense, et nous, on appuie sur la touche au moment où on veut être largué.
On veut être largué, et on a le choix, aller dans les grandes villes, aller dans les coins perdus dans la pampa, essayer de... mettre plus de temps à s'équiper, mais rester en vie, parce qu'il n'y a personne qui va aller là-bas, ou aller dans les grandes villes et s'équiper rapidement, mais prendre beaucoup de risques, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont aller dans les...
C'est vrai que c'est le premier choix qu'on a, c'est où placer le curseur entre les risques qu'on veut prendre au début.
Le risk and reward est au moment où tu fais F.
C'est-à-dire que ça
paye ou ça paye pas. Si tu sautes au-dessus de la base militaire, t'as 3% de chance de ressortir vivant. Parce que non seulement t'as du matériel militaire, en plus de ça, il y a du monde partout, il faut traverser des ponts. Pour revenir, si la zone allait au nord, alors que sachant que la base militaire est au sud, c'est le parcours du combattant. Ouais. C'est une épopée. À chaque game, c'est une épopée. C'est assez dingue. Coup,
si tu vas dans une zone vraiment dépourvue de tout bâtiment, des fois, tu mets 5 minutes, voire plus 10 minutes à trouver la moindre arme.
C'est l'idée, hein, je ne sais pas si on l'a bien précisé, c'est qu'on saute de l'avion à poil ou quasi, avec nos vêtements qui ne servent à rien.
C'est ça.
Et en fait, il va falloir dans toutes les maisons, les petites cabanes, et il faut looter, c'est-à-dire qu'il faut récupérer tout le matériel. Il est sur place, il est sur l'île par...
De manière aléatoire.
De manière complètement aléatoire à chaque partie.
Il n'y a que certains véhicules qui ont des points d'apparition fixes, mais tout ce qui est équipement, casque, armes, gilets, sac à dos, etc., objets de soins, apparaissent de manière totalement aléatoire. Donc tu peux aller 10 fois dans la même maison, tu n'auras jamais 10 fois le même loot.
Du coup, il est super important de savoir aussi bien fouiller les maisons de A à Z.
Et rapidement,
et avoir une trajectoire assez efficace. Et puis, il y a une espèce de notion, moi, je trouve, chaque maison est une pochette surprise un peu.
Ouais,
tu rentres dedans, tu ouvres la pochette surprise. Qu'est-ce qu'il y a dedans et tout.
Ah, il y a un autre joueur.
Dans les toilettes. Mince,
c'est Timothée. Mais voilà, il y a une notion de vraiment pochette surprise, c'est qu'est-ce qu'on va trouver dans cette maison. Et du coup, t'es là, tu ouvres et tu fais bon, qu'est-ce qu'il y a donc. Et comme toute pochette surprise, et ben une pochette surprise ouverte, tu sais que quelqu'un soit est passé, soit est encore dedans. Donc les joueurs malins, ils vont refermer la porte derrière eux, ils vont faire attention, ou alors ils vont se cacher à un endroit en se disant quelqu'un va venir fouiller cette maison, je vais l'attendre gentiment. Et donc il y a cette notion là qui est très bien et qui, je pense, participe aussi au fait que le jeu est particulièrement intéressant à regarder, même sur Twitch, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a trouvé dans cette maison,
comme quand tu regardes des vidéos sur YouTube de personnes qui ouvrent des boîtes de CS:GO ou... c'est exactement ça, c'est ça. Tu vois, c'est
sauf que là c'est dans le jeu, c'est le jeu, c'est pas une sorte de machin au-dessus du jeu, de méta, de trucs comme ça. Non, c'est le jeu en temps réel qui est en train de se passer.
Est-ce que PlayerUnknown's Battlegrounds n'est pas un peu l'unboxing des FPS?
Non, là, en fait, c'est cette phase de jeu qui est complètement différente à chaque partie, c'est-à-dire qu'on débarque à un endroit. Alors, moi, je vous parle de joueurs débutants. Hein, ce qui est amusant, c'est que c'est un jeu qu'on comprend immédiatement. On comprend ce qu'il faut faire immédiatement, mais on voit très bien ce qui nous reste à apprendre.
Ouais.
En termes de skill, entre guillemets, c'est la gestion de l'inventaire qui est une sorte de rapidité, d'appuyer sur son inventaire, de faire passer les trucs, de repérer. Et puis surtout, de repérer les objets à terre pour ne pas ouvrir son inventaire s'il n'y a rien d'intéressant. Parce que,
en fait, tu as le choix, et puis là, il y a eu la mise à jour du 27. Qui fluidifiait la notion d'attraper les objets avec F, parce que tu as le choix d'attraper avec F ou d'utiliser Tab et drag and drop,
ce qui t'intéresse, etc. Les joueurs qui savent jouer
t'as le choix, mais c'est vrai qu'ils veulent que les joueurs utilisent beaucoup plus la touche F que passer dans l'inventaire pour fluidifier le...
Et donc arrive aussi toute une série de codes, d'états du jeu qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre. Notamment, alors moi, c'est le truc où j'ai le plus de mal, évidemment, hein, c'est toutes les armes.
La balistique est très compliquée.
La balistique est ultra compliquée. Elle est pas... réaliste, ce serait un trop grand mot, la dispersion des balles.
Ils ont essayé quand même de coller le plus proche. J'avais regardé les statistiques des armes en jeu et les vraies pour savoir au niveau du fire rate, etc., la portée. Ils ont quand même essayé de se rapprocher à quelque chose de plutôt réaliste. Donc après, je sais pas si c'est un mal pour un
bien. D'Arma, les mecs, en même temps.
Mais voilà, c'est un mec qui vient d'Arma. À mon avis, il a quand même voulu que les armes... En tout cas, il y ait du bullet drop.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est super important en termes de jeu. Oui. Savoir avec quelle arme on va être à l'aise.
À quelle distance
avec quelle distance je vais pouvoir tirer. Quelle arme, moi, je suis à l'aise, avec laquelle je suis à l'aise en tant que joueur.
Il y en a plein.
Et il y en a plein différentes. Il y en a plein qui ont des mécaniques différentes. Entre un pistolet mitrailleur, un fusil d'assaut, un sniper, flingue, un sniper,
un fusil à pompe.
Et là, moi, je sens que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je suis complètement largué.
D'autant, et à mon avis, c'est un des défauts du jeu, mais peut-être qui sera corrigé par la suite, c'est que l'interface est quand même un peu rugueuse.
Rudimentaire,
ouais. Elle est pas vraiment facile. Il y a, par exemple, quand on trouve un accessoire qui est compatible avec son arme, alors il y a la silhouette de l'arme qui apparaît, mais alors, c'est pas du tout...
À quoi ça sert?
Ouais. Non, mais c'est pas... Puis on sait pas à quoi ça sert. Puis surtout, il y a juste cette icône qui apparaît en bas, mais ça n'indique rien, quoi. Alors qu'il pourrait mettre, oui, tu as une arme compatible avec ça. Alors en vrai, quand tu ouvres l'inventaire...
Si tu as une Scarelle dans les mains et que tu passes à côté d'une poignée droite, il va y avoir le logo de la Scarelle.
Cette discussion, par exemple, est complètement inaccessible.
Une arme et qu'il y a un équipement compatible, généralement, le jeu va t'afficher le logo de ton arme pour te dire... Ramasse, ça peut être intéressant.
Oui, mais ça c'est lisible par personne. Enfin, faut bien comprendre. Quand t'arrives dans le jeu, tu comprends pas.
Et c'est justement une des caractéristiques qui fait partie de l'ADN de PlayerUnknown's Battleground et même de la volonté de Brendan Greene. Brendan Greene, il explique dans toutes les interviews qu'il a fait que son truc, c'est faire confiance aux joueurs. Connaître sa communauté, faire confiance à la capacité des joueurs de s'adapter et de découvrir eux-mêmes et d'apprendre par rapport au jeu. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il jouait beaucoup à Assassin's Creed et à d'autres jeux, mais voilà, il pensait que Ubisoft ou les autres éditeurs ne faisaient pas assez confiance à leurs joueurs qui ont cette capacité d'apprendre, qui ont cette capacité. Bon, après, ça, c'est totalement.
C'est une philosophie de game design.
Et c'est ce côté aussi, là, de Brendan Greene qui n'est pas un game designer, qui n'est pas passé par toutes les étapes de devenir game designer, apprendre les codes et tout ça. Lui, il arrive avec sa propre vision et...
Disons qu'il y a des signalétiques qui, je pense, vont plus nous taper dans le cerveau reptilien et qui vont plus nous faire faire ce qu'on devrait faire. Par exemple, comprendre que oui, ce truc-là est compatible avec notre arme ou que tel objet s'utilise de telle façon. Enfin, je veux dire, les grands jeux vidéo se sont faits d'abord avec la philosophie du design, c'est-à-dire la forme suit la fonction. Quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit côté un petit peu compliqué dans PlayerUnknown. Rien n'est facile vraiment. Il y a vraiment tout un apprentissage, même pour les choses un peu bêtes. Et du coup, parfois, ça peut rebuter au tout début. Une fois qu'on est dans le bain, ça va, tu vois.
Mais ça rebute pas longtemps. Et après, voilà. Et il y a tous ces codes liés à ce Battle Royale. Toutes les portes des bâtiments sont fermées.
Ouais.
C'est des choses qu'on apprend vite. C'est-à-dire que si on voit un bâtiment avec une porte ouverte, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui est rentré ou qui est dedans, si c'est au début du jeu. Toutes les portes à l'intérieur des bâtiments sont fermées. Donc si on ouvre une porte et qu'on pense arriver dans un bâtiment vide et qu'il y a une porte ouverte à l'intérieur du bâtiment, ça veut dire que quelqu'un est rentré et qu'il a fermé la porte derrière lui. Et puis ce gaz, donc cette zone de jeu qui va rétrécir après 5 minutes de jeu.
Au début,
après 3 minutes et demie, etc. Ouais. Et elle diminue. Et on rappelle qu'on est sur une map de 64 km². Donc quand les zones diminuent, il faut anticiper, essayer de ne jamais se faire prendre par le gaz.
Au début, on se faisait beaucoup choper par le gaz et ils ont fait un truc tout simple. C'est que maintenant, sur la minimap, tu as des petits pointillés qui te disent « Ah, t'es pas dans la zone, mais suis cette direction-là, c'est le chemin le plus rapide. »
Ils ont rajouté ça et c'était...
C'est tout bête, mais tu vois, dans une idée de game design, c'est quelque chose d'intéressant.
J'ai découvert ça hier, c'était « Ah, genre, c'est par là, oh cool !»
Et tu y vas instinctivement. Et tu te fais moins choper par le gaz.
Hier, je suis passé par une rivière aussi, donc je me suis fait choper par le gaz en suivant la ligne droite.
Alors, si c'était entre la base militaire et...
Non, c'était l'autre, celle du nord.
En fait, ce qui est fort avec cette histoire de gaz, c'est que donc, la zone est indiquée à l'avance. Hein. Vous avez la zone où est le gaz actuellement, c'est-à-dire le cercle.
À la première fois que tous les joueurs ont posé le pied au sol.
Ouais. Voilà.
Donc s'il y a quelqu'un qui a AFK et qui descend comme ouais. très lentement,
on
bon,
peut être
bah,
très tranquille,
voilà, ou si tout le monde rush au même moment, mais, ça peut aller très très vite.
Mais quoi. Surtout, je parle vraiment dans les phases où le gaz rétrécit, atteint la zone de sécurité qu'on nous a annoncée avant, et puis on nous annonce une nouvelle zone qu'il va falloir viser. On nous donne un temps, voilà, la zone va rétrécir graduellement à partir de dans deux minutes, puis ça mettra quoi, peut-être une minute à
ouais, après, c'est total. Une minute trente.
Et sachant aussi que la puissance du gaz augmente avec la durée du jeu, c'est-à-dire qu'au début du jeu, on peut choisir de rester dans le gaz un petit peu pour looter des armes, aller dans des endroits où il n'y a personne, etc. Et surtout, si on a une moto ou une voiture, essayer d'aller le plus vite, de rattraper la zone, la safe zone après. Enfin, en fait, ce qui est fascinant, c'est toutes ces règles qu'on intègre très, très, très vite. En quelques parties, on a intégré ça. Et en fait, ça donne une sorte de cadre cadre absolument génial à l'expérience. Sachant qu'une partie va durer une demi-heure, qu'il n'y a évidemment aucun respawn.
C'est fini. Alors, quand t'es en équipe, tu peux te faire revive une fois que t'es mis au sol.
Mais si t'es mort, t'es mort.
Si t'es mort, t'es mort. Mais par contre, plus tu tombes au sol, plus ta barre de survie réduit, enfin, va se vider plus rapidement. Donc, tu tombes une fois, ça va. Deux fois, c'est compliqué. Généralement, au bout de la troisième fois, tes alliés disent « Bon, mon pote, laisse tomber. »
On va pas risquer toute l'équipe.
On va pas risquer toute l'équipe juste pour enlever un qui est tombé trois fois. Si t'es tombé trois fois, c'est qu'il y a une raison.
Mais cette notion vraiment de… Enfin, de toute façon, tout le jeu est construit là-dessus. Tout le jeu est construit sur des compromis. C'est-à-dire vraiment, le jeu, c'est une suite de curseurs que après le joueur va devoir choisir où il le met. Donc, ça va être « Est-ce que je saute dans une zone habitée ou est-ce que je saute dans une zone déserte ? Est-ce que je décide de rester un peu pour trouver du loot ou est-ce que je décide de… »
Ou je prends pour looter dans la nouvelle zone.
Voilà.
Est-ce que je vais au centre de la carte, là où il y a beaucoup plus de chances que je sois en safe zone dès le départ?
Mais là où il y aura plus de monde.
Ça a changé maintenant. Depuis la dernière mise à jour, en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, quand tu allais à Pochinki, tu avais une chance sur deux d'être dans la zone.
C'est la ville.
C'est le milieu. C'est le milieu. Tu avais une chance sur deux d'être dans la zone pendant 3 ou 4 shrink. Donc, au bout d'un moment, ils ont corrigé ça et maintenant, ça va un peu plus à l'aise.
Mais je pense vraiment que c'est cette notion que le joueur doit toujours faire des choix. Des choix souvent assez binaires qui fait que le jeu donne une impression de monter sa propre stratégie. D'ailleurs, ça, il y a pas de bonne, enfin, évidemment, il y a des do and don't, quoi. Il y a des bonnes pratiques à avoir dans ce jeu. Mais dans l'ensemble, un mec qui va passer son temps caché peut aussi s'en sortir. Ça peut être une solution. Ouais. Et il y a un type sur Kotaku. Là, ils ont montré une vidéo. Le mec a gagné sans tuer personne. C'est génial. Le mec a été tué par le gaz à la fin. Il restait caché dans son buisson et puis il attendait que ça se passe.
J'avais vu aussi il y a plein de chaînes de YouTube qui font des best-of et sur, je crois que c'était, Battle Player ou Player Battle, je sais plus. Il y a un mec qui était allongé au pied d'un arbre, il restait trois personnes, et t'as l'un des deux opposants qui meurt au pied de l'arbre où il est allongé, il l'avait pas vu, il ramasse son équipement, il s'équipe et il tue le dernier joueur et il gagne avec un kill et t'es là de fait. Et il y a plein de situations cocasses dans le jeu qui le rend fou.
Il y a cette citation, et puis on va écouter Monsieur Fall après, mais cette citation donc de Brendan Green: dans un Battle Royale, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Vous avez une histoire unique à chaque fois. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez avoir une expérience différente et c'est la clé. Et c'est peut-être ce qui fait le truc, et on en parlera après, ce qui fait le truc que c'est streamé avec du succès et que c'est aussi jouer avec du succès. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall pour sa dernière chronique de la saison. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Juan, pour cette dernière de la saison et en ce début d'été, je vous propose un petit jeu qui vous amène sur des îles ensoleillées pour trouver des trésors avec Au Capitaine. Au Capitaine est un jeu signé Florian Siriac, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer une quinzaine de minutes et c'est édité par Ludonote. Au Capitaine est un jeu qu'il va falloir amener sur les campings pour vous faire plein d'ennemis. Oui, parce que Au Capitaine est un jeu de bluff, de menteur, de fumisterie, de fourberie. C'est un jeu qui se base sur ce fameux principe. Vous savez, vous avez une carte devant vous, face cachée, puis vous dites à vos adversaires, cette carte, c'est ça. À lui de décider si vous mentez ou si vous dites la vérité. Partant de ce principe-là, Au Capitaine a développé un petit jeu qui vous raconte une petite histoire intéressante et imaginaire. Vous êtes un capitaine et vous avez des moussaillons devant vous et vous allez leur demander d'aller fouiller les îles alentour. Chaque joueur à tour de rôle va récupérer une carte face cachée et puis va annoncer au capitaine ce qu'il a trouvé sur l'île. Au capitaine de décider ou pas, après avoir bien sûr pris une pièce d'or au moussaillon qui lui propose quelque chose, hein, quoi qu'il arrive. Le contenu de la carte charge au capitaine de décider si oui ou non le moussaillon lui ment. Je vous passe tous les détails, s'il ment pas, on retourne la carte, on applique les effets sont pervers, on vole des cartes à l'un, à l'autre, etc. On peut se mutiner, on peut demander à devenir capitaine à la place du capitaine, enfin bref, de l'entourloupe, du mensonge, de la convivialité. Et oui, parce que ce genre de petit jeu, extrêmement rapide, quand vous perdez, vous énervez, vous voulez en faire une autre, parce que c'est pas possible de se faire avoir par ce mec, là, le mec, ça, c'est juste impossible d'imaginer de perdre systématiquement, parce qu'il vous ment terriblement. Donc, un petit jeu simple, rapide, efficace, avec du matériel splendide, des cartes très très belles, extrêmement bien illustrées. Au capitaine, c'est le début d'une aventure, ça s'appelle La Légende Ofluman. C'est le premier jeu dans un univers qui a été inventé par les ludonautes. C'est le premier opus, il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, enfin bref, voilà, il y a de quoi s'amuser pendant des heures et des heures. Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne parfaitement bien, ça remplit son rôle, et pour les vacances, c'est plutôt pas mal. Alors la boîte est un peu grosse, hein, ça coûte 25€, mais vous pouvez enlever le matériel de la boîte, le mettre dans un petit sac, et puis le partir en camping avec. Voilà, je vous rappelle le nom, au capitaine. Un jeu de Florian Siriex pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent une quinzaine de minutes. C'est chez les Ludonautes, ça coûte 25€. Et mon cher Rowan, je vous dis bonnes vacances.
À la rentrée prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Et bonnes vacances. Hein. Bonnes vacances, monsieur Fall.
Bah oui,
mais oui, il les a mérités. Exactement. On va continuer sur Player Unknown's Battleground avec une bande-annonce, celle qui a été dévoilée à l'E3, et c'est pas une petite bande-annonce parce que c'est l'arrivée de PUBG sur console, notamment la Xbox One, exclusivité temporaire parce que c'est aussi prévu sur la PlayStation 4.
Oui.
Donc Player Unknown's Battleground débarque sur console. Continue avec Player Unknown's Battleground, ce jeu donc qui à bout de 3 mois d'existence publique bastonne quoi, enfin avec 4 millions de ventes. Qu'est-ce qui fait, selon toi, Timothée, c'est quoi les ingrédients majeurs? Qu'est-ce qui n'existait pas avant? C'est ça, c'est ma grande question.
Ce qui est ouf, c'est que ça existait. Enfin, il y a eu King of the Kill de Daybreak, et en fait. Bon, tu te dis, quel est l'intérêt? Moi, quand j'avais reçu, il y avait la community manager française pendant la bêta qui m'a dit, tiens, essaye, tu vas voir, ça va être génial. Je me dis, attends, mais j'ai déjà H1Z1, King of the Kill, qu'est-ce que tu as en bêta avec ton jeu? Et en fait,
le jeu est pas sexy de loin.
c'était la première bêta. Et effectivement, tu te dis, mais pourquoi je vais aller jouer dessus, etc. Et au final, tu prends goût au côté un peu plus stratégique, un peu plus... je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu plus épique dans les games, peut-être l'ambiance graphique qui est plus réaliste que H1Z1, qui a un côté, moi, je trouve, un peu cartoon, arcade.
Ouais, mais en vrai, l'aspect graphique est repoussoir, il faut être honnête avec...
Battleground, quand t'as joué à Arma 2, quand t'as joué à H1Z1, tu te dis, bon, ok, et à DayZ aussi, tu te dis, bon, il est sexy, le genre.
Je suis pas d'accord pour... L'aspect graphique, s'il s'agit d'un TPS où l'animation des personnages qu'on joue n'est pas absolument démentielle, même si a priori
ça va être un des points
d'amélioration qu'ils ont expliqué avoir avec quelques mouvements qui vont arriver, pouvoir monter au-dessus des obstacles, oui. etc. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez rudimentaire. Mais je trouve, moi, dans les paysages, il y a quelque chose de semi-réaliste, de très réaliste, hein, dans le type de paysage un peu, je sais pas, ça doit venir des origines de Brendan Green qui est irlandais, mais il y a un côté, comme ça, un peu irlandais, un peu écossais, dans ce genre de.
Ah, je sais pas,
il y a beaucoup de végétation, il y a ce côté-là.
Dans Zelda aussi, il y en a. Hein, non, mais je veux dire, bon, moi, je trouve que c'est assez neutre, mais c'est bien aussi, tu vois, ça donne un aspect, épuré au gameplay aussi, d'avoir finalement des paysages assez simples et tout ça, mais c'est vrai que le chara-design n'est pas ouf.
Non, ça va, franchement, je regarde vraiment un chasse des dents, je te garantis.
Parce que tu vois, on nivelle pas par le bas.
Il faut comparer ce qui est comparable et mettre en concurrence les deux jeux.
Bah oui, parce que c'est les jeux de Battle Royale.
Et puis en plus, PlayerUnknown a bossé sur les deux. Tu sens qu'il y a des choses qu'il n'avait pas là et qu'il a tout corrigé. Lui, il voulait peut-être un truc plus réaliste, donc il a fait un jeu plus réaliste, avec des couleurs moins criardes, bien que. Au début, c'était pas très beau, mais là, ça s'assure.
Regarde, j'ai joué hier.
Joue au moins en médium ou essaye au moins en ultra une fois dans ta vie et tu verras que le jeu est très joli. C'est de l'Unreal 4, donc tu vois, il n'y a pas de raison que ça soit moche.
Les auditeurs tranchent.
Et tu m'avais demandé la question pourquoi on y joue, parce qu'effectivement, il y a le côté stratégique, parce que la carte est cool. En vrai, il y a beaucoup de villes, mais pas dans l'abus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des buildings de 7 étages comme dans H1Z1 où tu tournes pendant 5 minutes. Ouais, là, c'est les plus hauts bâtiments, c'est 3 niveaux avec un toit. T'as les véhicules, alors il y a des Dacia.
Les
fameuses Dacia. Ils ont racheté les motos. Il y a les buggy, il y a les UAZ, etc.
Ce qui est bien, c'est que c'est des véhicules, et du coup, quand on est en équipe, il y en a un qui se met à l'arrière, qui surveille les alentours. Et par contre, il est grave exposé, et l'autre qui conduit, souvent qui fait de la merde, qui va faire des loopings, et qui va se cracher.
Qui prend les rebords.
Putain, t'es con.
Et l'élément le plus important, on n'a pas souligné, en fait, c'est tout simple, c'est le fait de pouvoir mettre des équipements sur ses armes. Ça paraît tout bête, mais c'est game changer. C'est-à-dire qu'une personne qui a une visée x4, toi, t'es au point rouge, tu vas pas aborder le petit point rouge avec le petit réticule. Tu vas pas aborder le combat de la même manière. Donc, à chaque fois, à chaque combat, il y a une stratégie de deviner qu'est-ce qu'il a comme arme. Alors, des fois, ça peut être au bruit. Des fois, ça peut être aux dégâts qu'il
prend. Parlons aussi de ça, l'importance. Alors, on ne joue à PlayerUnknown's Battleground que au casque.
En grande partie. Je pense, 60% de casque et 40% visuel, parce que le son te donne... Les informations sont plus rapidement accessibles.
C'est absolument dingue. C'est moi qui ai quelques parties. J'ai pas une très grosse expérience de jeu, mais j'ai déjà... énormément de moments, notamment quand on est dans une maison. Alors, il faut fermer la porte derrière soi quand on rentre dans une maison, parce que comme ça,
après,
si on entend la...
L'école. Moi, je laisse tout ouvert, je rush.
Bah, ça dépend. Moi, quand on est débutant, en tout cas...
Le réflexe,
c'est on ferme la porte comme ça, si on entend la porte s'ouvrir. On sait qu'il va falloir se préparer à quelque chose, surtout si on est à l'étage. Et après, on va entendre sur des maisons plus grandes, des gens marcher, on va entendre les coups de feu. Parce que quand on est dans une zone où on n'est pas très exposé, parce qu'on est allé très très loin de la trajectoire de l'avion, on va commencer à entendre des coups de feu, pardon.
Des véhicules.
Des coups de feu à gauche, à droite.
Tout cette terre.
La spatialisation du son est quand même assez excellente.
Ils l'ont amélioré au patch de mars, avec l'arrivée de la Vector, où en fait il y avait des soucis de perception du son, il n'y avait pas la notion de crevasse et de derrière les montagnes, etc.
Bah après, là on est vraiment dans le détail. Mais déjà, rien que quand on est dans une plaine et qu'on entend tu vois, et on se dit ok, donc il y a un peu de gens loin à gauche, ça te fout des fourrailles pas mal à droite, donc je vais plutôt me déporter vers la gauche, sinon je vais vite rentrer.
Je pense que ce qui m'a vraiment fasciné, et j'ai lu dans une interview que c'était vraiment une envie de Brendan Green, c'est qu'on est dans un jeu multi de tir, bon TPS, mais bon, c'est finalement avec cette même nervosité que dans un FPS.
Bah oui,
mais
lui, ce qui peut passer de la vue TPS à la vue FPS sur une simple touche.
Il voulait pas faire un mode très sérieux.
Si, un mode hardcore,
Il va y avoir un mode hardcore où là, c'est uniquement
FPS.
Uniquement FPS, puis il y a d'autres.
L'ouverture
trucs,
du parachute manuel, c'est-à-dire que le parachute il s'ouvre tout seul. Ouais. Là, c'est toi. Tu vois à quel moment tu joues.
Tu peux te cracher si tu veux.
Oui, tu peux mourir du premier coup. Tu peux être le premier à mourir en tombant du.
Mais surtout, en fait, lui, il voulait sortir de ce jeu de tir en multi Counter-Strike qui est on se prend des headshots sans savoir d'où ça vient. On sait où sont les ennemis parce que là, on connaît la map, elle est toute petite. On meurt en respawn. Il voulait sortir de ce modèle-là qui est, moi, un modèle qui m'a jamais convenu parce que j'ai pas assez bon et pas assez de réflexes, trop vieux, je sais pas, pour ce genre de choses. Et là, tout de suite, j'ai compris. que bah oui, si je descends à pic en dessous l'avion, aller dans l'endroit la base militaire, je vais mourir. Donc c'est pas du tout mon style de jeu. Mon style de jeu à moi, ça va être de planer, d'aller le plus loin de la trajectoire de l'avion.
Ouais, t'écarter de l'avion.
De m'écarter de l'avion comme ça en fait joueurs. Finalement sur les 64 km², bah je vais être à un endroit où il va y avoir peut-être un ou deux autres joueurs ou pas du tout. Et donc en fait ça va être totalement un autre jeu que les gens qui vont rusher dans une ville, etc. Et donc chacun va avoir son type de jeu et en même temps garder une tension, garder sa propre histoire, c'est-à-dire à chaque partie on va faire sa propre histoire parce qu'il y a le gaz, ça diminue, on va essayer d'avoir quelques équipements, de ne pas être trop ridicule quand on va se rapprocher des zones où il va y avoir des gens. Et bah, finalement, bah, j'arrive forcément avec mon style de jeu, je vais arriver dans les 30 derniers, rarement dans les 20 derniers, voilà, c'est mon stade est là parce que justement au moment où ça diminue, bah, on arrive au moment où il va. Mais avec 2, 3, 4 kills, ça va. Et je vais avoir vécu un truc génial, quoi.
Je pense que c'est la plus grosse force de PlayerUnknown's Battlegrounds, c'est cette espèce de storytelling organique qui est secret par le gameplay.
Chacun se crée. En fait, tout le monde a le même jeu, mais chacun se crée son aventure. Mais c'est comme ça que je le vois à chaque fois, c'est une nouvelle aventure
vraiment,
à chaque débarquement.
Mais c'est vraiment pas créé par de l'écriture narrative, c'est vraiment créé par des choix de game design qui sont très bien pensés. Ouais. Le fait qu'on arrive sur une très grande île et que finalement on a le choix finalement de se la jouer planquée, ça permettra même aux débutants finalement d'avoir des parties suffisamment longues pour en apprendre plus sur son propre style de jeu, pour prendre des habitudes, pour tester, machin. Alors que c'est vrai que comme tu dis, quand t'arrives dans une partie, c'est impossible de commencer Counter-Strike aujourd'hui, c'est impossible. T'arrives, tu te fais tuer tout de suite. Okay, pareil, tu vas apprendre Smash Bros. Melee. Tu peux pas apprendre Smash Bros. Melee aujourd'hui. C'est mort, c'est trop fort. Là, il y aura toujours de l'espace pour même des gros débutants. Et malgré ces airs de jeu, on va dire, de pro de la gâchette pure de l'armée, de ça.
C'est ça, exactement.
Il y a un aspect de chance.
Il y a une notion arcade, malgré tout, qui fait qu'on va quand même avoir ces petits moments, ces petites anecdotes qui vont se créer toutes seules. En effet, tu parlais du gaz qui fait que. À un moment donné, j'ai couru à poil dans la plaine. Bah ça, tu peux le raconter à tes potes, ça les fait marrer.
Et c'est pour ça que ça marche sur Twitch.
Et c'est voilà, parce que voilà, on suit l'épopée d'un type.
C'est l'épopée, c'est plein de situations cocasses où des fois, bah, par exemple, tu vas écraser ton pote sans faire exprès. Ouais. Bon bah désolé. Ou un autre véhicule va te rentrer dedans. Il y a toute l'équipe dans ta voiture, tout le monde explose. Non, il y a plein. Les bombardements, on en a pas parlé, mais en fait, il y a des zones rouges. Ouais. Les zones rouges où pas de chance. Là où il y a des joueurs, bah ça va bombarder. Il faut se mettre à couvert. Et toute ton équipe peut se prendre un coup du mortier. C'est voilà. Le mortier ou de l'obus ?
Je sais plus, mais ça bombarde.
Parce qu'il y a les avions qui passent au-dessus.
Ouais. Donc, je crois que ça doit être des obus qui tombent et ça peut changer tout d'un coup la game. Tu vas voir un allié qui tombe, tu vas essayer de le ressusciter, manque de peau, tu t'en prends une aussi. Enfin, c'est plein de situations rigolotes, cocasses,
il y a aussi
de la frustration.
Il y a les drops de caisse aussi.
Il y a les drops de caisse.
Est-ce que j'y vais ? Ou est-ce... Parce que si tu y vas, tu sais qu'il y en a 3 ou 4 autres qui auront eu la même idée que toi. Ou est-ce que tu. Non, c'est bon.
Non, je laisse. J'attends qu'ils récupèrent. Parce qu'il y a d'autres stratégies, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des avions qui vont passer, qui vont lâcher des crates, donc des caisses avec de l'équipement.
Très bon équipement.
Du très bon équipement, ça peut être la grosse sulfateuse, la M240, des très bons snipers comme la WAP qu'on connaît dans Counter-Strike ou le M21. Et en fait, c'est vraiment des armes avec, une plus-value que tu ne peux pas récupérer autrement que dans ces caisses-là.
Mais c'est un risque.
Il y a, voilà, le risque, c'est que ça va attirer les joueurs. Oui. La caisse, elle tombe, tout le monde l'a vu. Il y a un gros gaz, il y a une fumée rouge qui dit « Eh oh, je suis là !»
C'est ça qui est génial, c'est que le risque, il est avec le gameplay. C'est-à-dire que le risque, c'est les autres.
C'est ça.
C'est pas un risque, ils ont pas mis un dragon à côté. C'est juste le risque, c'est que c'est les autres joueurs.
C'est sur les statistiques et ça se trouve, tout le monde va se méfier. Tu vas être le seul à y aller et tu vas être récompensé pour être le seul à avoir pris le risque.
Ou sinon, tu vas aller récupérer ton arme et tu vas aller à un endroit embuscade et tu vas te faire dépouiller.
De toute façon, c'est le principe de la corne d'abondance de Hunger Games, mais appliqué sur tout un game design.
C'est ça. Et là, pour le coup, et puis voilà, c'est vrai qu'à regarder des bons joueurs, des gens qui s'y connaissent, qui vont expliquer, qui vont parler de leur stratégie à deux, à trois, à deux ou à quatre aussi, regarder des gens en squad, c'est assez génial.
C'est rigolo, deux joueurs n'auront pas les mêmes stratégies. En plus, ça dépend de son style de jeu.
Je veux dire, moi, je joue avec beaucoup de personnes, il n'y a pas un mec qui joue de la même façon. Enfin, c'est impressionnant. Il y en a, il va aller un tout petit peu excentré, il y en a qui va vraiment aller dans les villes, il y en a, il va faire que de la base militaire. Enfin, c'est chacun sa petite recette, tu vois, son petit plaisir à dire tiens, je vais aller là parce que j'aime bien, et d'autres qui vont dire ah, non, moi, j'y vais pas.
Est-ce qu'on n'aurait pas le jeu de tir bac à sable ultime, quoi. Enfin,
c'est pas bac à sable.
Mais non, mais
c'est GTA, le jeu de tir bac à sable.
Oui, c'est ouais. vrai.
Je dirais pas bac à sable, mais
enfin, un espèce de truc où il y a plein de choses qui ressortent.
C'est
de,
un road trip, quoi. Ouais. Enfin, le jeu, c'est...
Je sais qu'on fait toujours cette comparaison un peu douteuse, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de démocratisation d'un genre qui ne l'était pas du tout, un peu comme ce que Smash Bros a réussi à faire avec le jeu de combat, ou ce que Splatoon a réussi aussi à faire avec le jeu, de sa propre manière.
Ouais, parce que j'aime mieux vous dire que pour que moi je joue à un jeu de tir multi,
c'est ça.
Et il y a eu un truc qui s'est passé.
Ouais, il s'est passé quelque chose.
Passé quelque chose parce que c'est un genre, le jeu de tir en ligne, c'est un genre qui m'était inaccessible depuis mais hyper longtemps.
Mais en plus c'est même pas que le jeu de tir, c'est le jeu de tir.
La dernière fois que j'ai joué, je me suis impliqué dans un jeu de tir multi, c'était le multi du premier Battlefield.
Ah oui, en effet. Ah oui. Mais là,
c'est la dernière fois où je me suis amusé, où je me suis vraiment un
c'est pire. Parce que c'est ce type de jeu soit méconnu, soit classique avec un twist, quoi. Ouais. Et souvent c'est comme ça qu'on a de très bonnes surprises et qui font plaisir, quoi.
Voilà, donc PlayerUnknown Battlegrounds qui arrive sur console, qui avec toujours plein de modifications,
grosse mise à jour.
La mise à jour a eu lieu cette semaine.
Et après toutes les deux semaines pour les correctifs, parce que il y a du bug report, donc les joueurs vont aller sur les forums dire il y a ça. Toutes les deux semaines ils font des petits correctifs et une grosse mise à jour avec ajout de contenu, d'armes, etc.
Et toujours, beaucoup de PlayerUnknown Battlegrounds sur ta chaîne Twitch.
Oh, tout le temps. Je fais que ça, beaucoup trop.
Des fois, je regrette. En même temps, ça plaît aux gens. Enfin,
bien sûr.
Moi, c'est toujours un plaisir. Quand je vais sur une chaîne de quelqu'un que j'aime bien, il fait du PlayerUnknown, je fais ah cool, il fait du PlayerUnknown.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis un spectateur. Je suis capable vraiment de regarder. Je trouve qu'il y a des tensions, des choses.
T'es devenu YouTuber, tu traînes sur des chaînes Twitch, fais attention, Arwan.
Mais ouais, c'est une évolution. C'est une évolution du jeu vidéo.
À quand le unboxing? Dans
silence. On va quand même parler d'un autre jeu aussi très compétitif qui va débarquer au mois d'août, mais qui arrive en bêta fermée, au premier abord aurait pu faire penser à Overwatch, mais on n'arrête pas de me dire, toi notamment, mais n'importe quoi, c'est pas Overwatch. En tout cas, ça s'appelle Lawbreakers. Lawbreakers, donc multi-arène, un peu futuriste, voilà.
Non, très futuriste.
Très futuriste, voilà.
Hyper futuriste.
Donc en fait, on est encore en bêta fermée, nos auditeurs ne peuvent pas
bêta fermée, il faut mettre son mail et tu reçois là une clé instantanément.
Je l'ai eu, genre tout de suite.
Oui, non, c'est ce que j'ai dit à Corentin, je lui ai dit, essaye, tu verras, fais ton avis. Ah, mais il faut une clé bêta, je fais non, mais vas-y, tu vas sur le site, tu mets ton mail et en deux minutes, tu l'as, quoi, même pas. Donc,
c'est immédiat.
C'est bêta ouvert.
Bravo,
D'accord.
Donc allez essayer, c'est gratuit, c'est cool.
Oui, ça.
Et donc, en quoi c'est bien ? Alors, on m'a appris qu'on avait très peu de temps.
Alors, rapidement, pourquoi c'est bien ? Parce que c'est hyper dynamique, c'est très rentre-dedans, très peu réfléchi, c'est vraiment bourrin. Il y a un côté vertical qu'on avait déjà dans les Call of Duty avec les jetpacks, sauf que là, c'est hyper assumé. Tu fais des bonds de 15 mètres, t'as des zones avec pas de gravité, donc tu restes en l'air pendant très longtemps.
Les personnages ont tous des moyens de se déplacer un peu orthodoxes. Genre le médic a un jetpack, il y en a un qui se déplace super rapidement. Voilà, donc
et ça va faire plaisir à certains de nos auditeurs, il y a un grappin.
Un personnage,
l'assassin qui a des grappins et des lames, donc agrappe et elle met des coups de couteau. Je crois qu'il y a 6 ou 7 héros différents. Enfin, alors on dit héros parce que effectivement il y a ce rapprochement avec Overwatch que je trouve un peu.
En fait, dans la structure, c'est du Overwatch, mais dans la façon dont on joue, c'est plus du tout
FPS,
du Overwatch.
C'est pas dans la structure, c'est Overwatch. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pas de payload pour l'instant. T'es pas dépendant de la composition de ton équipe.
Il y a des modes de jeu différents. On va pas entrer dans le détail, mais il y en a 3 ou 4, je crois.
Oui, Blitz, QG.
Et le truc, c'est contrairement à Overwatch, j'ai l'impression qu'il y a moins de notions de besoin d'être en équipe.
Oui, tu peux solo carry.
Tu peux jouer tout seul. Ce qui, à mon sens, et là c'est là où on a un défaut, comme ça on rentre direct dans les défauts. faux, c'est que par exemple, il y a une classe médic, j'ai essayé de la jouer, mais c'est impossible. Les mecs, ils veulent pas se faire soigner.
La classe médic est très compliquée à jouer, mais ils ont mis un médic parce que dans ce genre de jeu,
mais c'est un médic avec un lance-grenade. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, donc moi, j'ai trouvé le jeu alors un peu laid, faut dire les choses telles qu'elles sont.
Il est moche.
La direction artistique est pas ouf, surtout après avoir joué Overwatch. Le problème, c'est qu'Overwatch a mis la barre assez haut. Ouais. Le jeu, en effet, est très nerveux, mais compliqué à gérer au niveau de la verticalité.
Ouais, parce que t'as pas joué. Enfin, je pense que t'as pas assez joué justement au dernier Call of Duty où il y a ces jetpacks très verticales, au Titanfall, etc. Dès lors où t'as un peu joué à ces jeux-là, tu t'y retrouves vraiment rapidement. C'est-à-dire que c'est instinctif.
Ouais.
C'est t'as le jetpack, t'arrives en l'air, tu vois à peu près les ennemis. C'est très très très.
Et après, donc le but du jeu, c'est souvent de switcher entre ses armes de longue portée et son arme de courte portée. Bon, sauf pour l'assassin qui n'y va qu'au corps à corps, mais souvent.
Non, un fusil à pompe.
Ah, un fusil à pompe aussi. Mais voilà, grosso modo, c'est je tire de loin avec ma mitraillette, j'arrive de près avec mon flingue. Voilà, c'est souvent ce genre de truc.
D'accord.
On a aussi un coup de pied pour envoyer valser ses adversaires. Mmh. C'est vraiment un mi-chemin entre un Overwatch et un Quake, moi je dirais.
Overwatch, Quake. Ouais. Call of Duty. Enfin, c'est un mélange de plein de genres. Et
le problème, moi, je vous conseille d'y jouer avec des potes, parce que si vous jouez avec des gens, les gens, ils vont juste chercher à faire des kills, ils vont pas chercher à remplir les objectifs,
bêta,
et tu perds. Et il y a un mode en particulier qui m'a énervé, parce qu'il est
c'est
beaucoup trop long.
Ball.
Le Blitzball, oui, où on doit garder une balle pour l'emmener au but, grosso modo, et c'est 13 minutes, je crois, et 12, 8 points. Quoi. 12 minutes et 8 points, mais c'est trop long, quoi. Ouais. J'en pouvais plus, quoi. Ouais, et donc, il y a vraiment plein de petites modifications à faire. En attendant, c'est aussi fait pour ça, les bêtas, et donc, allez tenter votre chance, allez jouer, prenez un
qu'est-ce qui, pourquoi toi, parce que t'as l'air d'accrocher, en fait.
Ben moi j'accroche parce que c'est hyper, enfin comme je l'ai dit, c'est dynamique, c'est-à-dire que c'est pas prise de tête, tu vois, c'est pas le jeu où tu vas dire oh mince j'ai fait n'importe quoi, tu vois comme Overwatch où tu te prends rapidement la tête avec tous tes potes parce qu'il y en a qui font n'importe quoi, etc. Ben là Lawbreaker c'est t'arrives, tu joues, c'est instinctif et tu t'amuses rapidement. Le but d'un jeu c'est de s'amuser, c'est pas d'être frustré, etc. Et là moi j'ai trouvé l'amusement assez rapide.
D'accord.
Avec des classes différentes, avec chacun ont leur avantage, leur inconvénient, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le jeu qui m'attire, peut-être le côté vertical et le côté hyper assumé futuriste.
Et c'est, mais je pense que ce côté nerveux c'est Cliff Bleszinski donc qui est derrière le jeu, et donc c'est voulu parce que déjà Gears of War était très très nerveux comme ça, donc c'est vraiment un côté fast FPS qui était assumé.
Là, il est vraiment
Et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent une alternative au jeu d'arène comme Overwatch.
Il coûtera 30€ donc.
Lawbreakers disponible en bêta quasi
le 3 juillet et en août, le 8 août, la sortie console et PC.
Et ben c'est fini pour cette semaine et cette saison de Silence on joue, la 10e. On est arrivé au bout de cette 10e saison sans pratiquement pas trop de numéros qui ont sauté, hein, je crois peut-être un ou deux. Et donc, grosse fierté parce que la saison 9 avait été un peu entachée par beaucoup d'émissions qui avaient sauté. Donc, je suis ravi. Merci à No Life de nous avoir accueillis pendant cette saison. Et puis, on se retrouvera sans doute la saison prochaine sur No Life et sur les internets et sur YouTube. Voilà, parce qu'on a aussi connu en c'est YouTube, hein, et donc c'était une belle expérience, donc je suis assez ravi. Mais quand même, avant de finir cette saison, avant de finir cette émission, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, tu es au courant de cette question rituelle
au courant.
Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Timothée?
Je regarde des séries, et notamment là, je viens de finir la saison 1 d'American Gods. Et j'attends la saison 2 de pied ferme. Quoi.
C'est bien.
Moi, j'ai adoré. Alors, tu comprends rien. C'est comme PUBG, la première game que tu vas faire. Tu vas rien comprendre, mais tu vas être là. Mais c'est trop cool.
Ouais.
Parce que les visuels sont beaux, parce qu'il y a une intrigue. Tu sens qu'il y a une pépite qui va arriver. Enfin, qu'il va y avoir quelque
Gaiman,
chose.
C'est ça le. L'auteur du bouquin.
Oui, c'est issu d'un roman et c'est Brian Fuller.
Puis on sent que c'est un peu la volonté d'Amazon d'avoir son House of Cards à lui.
Ouais,
en termes de.
Je sais plus, je confonds toujours lui.
Enfin, je pense qu'ils veulent avoir leur série qui marque, qui coûte point.
Et franchement, il y a 8 épisodes.
Enfin, une tane avec, je pense, je vais regarder.
C'est beau, c'est intéressant. C'est pour l'intrigue, c'est des dieux qui sont confrontés à des nouveaux dieux. Je vais pas trop spoiler parce que si je vous dis, voilà. Allez-y, c'est sur Amazon Prime. Donc si vous avez Amazon Premium, c'est gratuit. Enfin, vous l'avez, c'est gratuit. C'est intégré avec votre abonnement, donc il y a pas de raison de ne pas regarder.
Quentin.
Je me suis mis à Netflix il n'y a pas longtemps, là j'ai pris un abonnement. Donc, le monde est grand. Mais il y a une série qu'on m'avait beaucoup parlé. Enfin, c'est pas une série, c'est une télé-réalité japonaise. Ça s'appelle Terrace House. Et donc, c'est l'histoire de. Bah, c'est six jeunes japonais qu'on met dans une grande maison. Donc, trois garçons, trois filles. Et alors, ce n'est pas scripté. Bon, je ne demande qu'à le croire, je n'y crois pas trop. Mais par contre, c'est une télé-réalité qui n'est pas une télé-réalité d'enfermement. Donc, les mecs qui sont dedans, ils peuvent sortir autant qu'ils veulent. Ils continuent de bosser. Donc, par exemple, il y a un coiffeur qui continue d'aller sur le salon de coiffeur. À un moment donné, il reçoit ses potes. Ah, bah, venez, je vais vous coiffer si vous voulez et tout ça. Et donc, on regarde ces relations se faire. Et comme c'est des japonais, et ben, tout est très lent, tout est très retenu, tout est très. Mais dites-les, vous, les choses que vous voulez vous dire, enfin, c'est pas possible. Mais c'est adorable, c'est étonnamment passionnant. Puis c'est à la japonaise, donc c'est entrecoupé pas un public, mais de commentateurs qui viennent faire un petit peu, qui viennent donner des pistes de réflexion sur ce qu'il faut penser de ces jeunes-là, dans leur grande maison, avec leur belle voiture. Et c'est adorable, franchement, c'est adorable. Donc je recommande à tout le monde. Il y a une autre saison à Aloha State, mais a priori, elle est moins bien, j'ai pas encore regardé. En tout cas, là, la première, c'est Boys and Girls in the City. C'est pas la première au Japon, mais pour Netflix, c'est la première. Et ça a survécu grâce à Netflix d'ailleurs qui a décidé de relancer le concept. Je vous recommande, c'est sur Netflix.
On l'avait reçu début janvier, c'est Léo Ellis donc, qui avait fondé Arma Team, Rémi Chanson. Et donc en fait il a sorti aux éditions Hors Collection le guide de l'e-sport. C'est vraiment un truc bien pour comprendre ce que c'est. Pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, pour les gens qui sont à donf dans l'e-sport, ils n'apprendront pas forcément grand-chose. Quoique, en fait, il aborde tous les genres de l'e-sport. Donc, en fait, il a réussi à résumer quand même League of Legends en quelques phrases. Hein, donc, c'est, moi, déjà, rien que ça peut aider à pas mal de gens. Mais il revient, c'est un acteur historique de l'e-sport. Donc, il revient sur l'histoire du truc. Donc, voilà, c'est son guide de l'e-sport aux éditions Hors Collection. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'aspect e-sport potentiel de PlayerUnknown's Battleground.
L'objet d'une autre émission.
Ça fera tout l'objet d'une autre émission, le potentiel.
Je crois pas trop, moi.
Ah, moi, j'y crois.
Moi, j'y crois. Trop de chance. Il y a eu des tournois récemment et ça a super bien marché.
Ah ouais.
Merci à tous les deux. Et merci à vous d'avoir suivi cette 10e saison de Silence on Joue. À la prochaine. Ciao.